Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. La séduction et ce qui nous attire chez l'autre, eh bien c'était hier et c'est en replay sur Radio Player France. Comment allez-vous en ce mercredi? Heureuse ainsi que toute l'équipe de ce magazine de vous accueillir sur cette antenne pour interroger cet après-midi notre courage. Vous imagineriez-vous être capable d'actes héroïques ou de bravoure? Le courage est la première des qualités humaines car elle garantit toutes les autres, selon Aristote. Face à l'adversité, la maladie, la misère, un danger imminent, un défi, une addiction, une injustice, sommes-nous capables de déployer une force intérieure insoupçonnée? Avons-nous tous plus de courage qu'on ne le pense? On en parle dans un instant avec nos invités. Mais pour l'heure, ils sont à l'écoute de Mathéo qui nous appelle depuis Belfort. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, Mathéo. Est-ce qu'on peut se tutoyer parce que toi et moi, on a le même âge?
Oui, oui, bien sûr.
D'accord. Tu as 13 ans, Mathéo. Tu es en classe de 4e à Belfort. Et en fait, alors j'ai dit il y a un instant, vous allez entendre le témoignage de Mathéo qui est un héros. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait preuve d'un acte héroïque il y a quelque temps?
Pas autant que la plupart des personnes le pensent.
Ouais, c'est-à-dire que tout le monde te dit aujourd'hui que tu es un héros?
Oui, sauf que moi, je ne pense pas exactement à la même chose.
Qu'est-ce que tu penses, toi?
Je pense que j'ai juste fait mon devoir de citoyen.
Ouais.
C'est-à-dire juste aller aider cette personne et puis pas vraiment faire un acte héroïque aussi incroyable.
C'était le dimanche 10 janvier. Tu es avec l'un de tes potes, comment s'appelle-t-il?
Kylian.
D'accord, donc tu es avec Kylian, vous jouez dans un parc, jusque-là c'est un dimanche qui ressemble aux autres. Et qu'est-ce qui se passe?
Au début on a été censé faire tout ce qui est musculation, du sport et tout ce genre de choses. Et puis arrivé à un moment, on a entendu un énorme crack dans l'eau et c'est à ce moment-là qu'on a vu le père avec son fils en train de se noyer à moitié.
D'accord, donc c'est-à-dire que vous étiez au bord d'un étang gelé, parce qu'au mois de janvier, évidemment, les températures seront des températures d'hiver. Et donc cet homme était avec son petit garçon et ils étaient en train de marcher sur la glace, c'est ça?
Oui.
Et donc ils sont tombés dans l'eau?
Exactement.
Quand tu dis qu'ils étaient en train de se noyer, c'est-à-dire qu'ils appelaient au secours?
Oui, il y avait le papa qui était en train de crier « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider ?»
Ouais.
Le fils, on l'entendait hurler de peur.
Ouais.
Et moi, à ce moment-là, je me suis dit « La glace n'est pas assez souillée pour pouvoir contenir déjà un adulte. Donc si en plus il y a un adulte et un enfant,
ouais,
c'est sûr que ça va craquer. »
Quel a été ton premier réflexe?
Stresser un petit peu. Et après, j'ai foncé tête baissée parce que je me suis dit, j'ai vu tout le monde en train de filmer la scène, mais personne qui allait aider. Du coup, j'ai foncé tête baissée et Kylian m'a suivi à ce moment-là.
Ok, pour toi, ça te semblait évident de devoir leur porter secours?
Bien oui.
Tu es allé toi-même sur cette surface gelée du lac?
Oui, je suis allé moi-même, j'ai marché sur la glace jusqu'à atteindre le parent et son enfant.
D'accord.
Jusqu'à ce que je puisse attraper l'enfant et pour le dégager de cette eau froide.
À ce moment-là, justement, tu t'es dit toi-même, Mathéo, quelle idée d'aller marcher sur la glace. De toute façon, il était évident qu'ils allaient la traverser. Alors, qu'est-ce qui a fait que toi, justement, tu t'es lancé et que tu as couru ce danger? Est-ce que tu as eu conscience à ce moment-là que tu courais un danger similaire?
Oui, ça, j'en étais tout à fait conscient.
Ouais.
Mais je me suis dit, du temps que je sais qu'ils vont bien et que qu'ils puissent s'en sortir, pour moi, c'était un petit peu le principal.
D'accord, donc toi, tu étais prêt à courir le risque d'arriver aussi dans l'eau, parce que l'idée pour toi, c'était quand même de pouvoir les sauver.
Oui.
D'accord, est-ce que tu as senti la glace sous tes pieds qui se fissurait? Est-ce que tu as eu peur de tomber ou est-ce qu'à ce moment-là, tu étais anesthésié de toute peur?
Non, j'ai pas senti la glace craquer. C'est seulement quand ça s'est cassé en dessous de moi que là, je l'ai senti.
Alors, quand tu dis que ça s'est cassé en dessous de toi, c'est que tu t'es retrouvé toi-même dans l'eau?
Exactement. C'est qu'il y a la glace qui n'a pas supporté mon poids et ça a craqué d'un seul coup. Ça n'a même pas fissuré, ça a craqué d'un seul coup.
Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là?
Une énorme peur.
Ouais.
Parce que avoir une eau aussi froide en une seconde, c'est assez... C'est un bon moyen de se réveiller.
Ouais, c'est très choquant physiquement.
Oui.
Ouais.
Sinon, j'ai ressenti plus de peur qu'autre chose.
D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as réussi à attraper ce petit garçon et à le sortir de l'eau?
Qu'au début, j'ai réussi à me rapprocher assez. Je me suis pas non plus rapproché, juste à côté.
Ouais.
Et j'ai pu attraper l'enfant par le manteau. Il s'était assez rapproché du beurre. J'ai pu l'attraper et pouvoir le ramener jusqu'à un endroit où je puisse quand même me mettre à marcher et continuer à le traîner.
Ouais.
Sauf que sans vouloir partir, que la glace s'est cassée en dessous de moi. En essayant de remonter, je me suis assez fait mal au doigt à cause des bords.
Mmh.
Ensuite, j'ai réussi à remonter. Il y a une personne qui a été assez courageuse pour pouvoir marcher un petit peu sur la glace pour venir chercher l'enfant et pouvoir l'amener à une personne qui, elle, a su calmer l'enfant.
Alors, Mathéo et Kylian, vous avez tous les deux sauvé ce petit garçon. Le papa, donc un homme de 33 ans, a pu être extrait de l'eau. Vous avez été emmenés tous les quatre à l'hôpital. Dans un instant, tu vas nous dire comment ça s'est passé après. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On parle du courage aujourd'hui sur RTL. Est-ce qu'on n'aurait pas au fond de nous plus de courage qu'on ne le pense? Est-ce qu'on ne se surprend pas? Est-ce qu'on n'aurait pas des ressources insoupçonnées? Ben oui, eh bien on en parle avec vous, avec vos messages qui nous sont arrivés sur nos réseaux sociaux, CRI qui nous écoute. Quand on est devant une situation qui en demande, on ne se pose pas la question. Ben justement, apparemment, Mathéo ne s'est pas posé la question lorsqu'il s'est agi de sauver un petit garçon et son papa qui était tombé dans un étang gelé. C'était le 10 janvier dernier. Après avoir toi-même, Mathéo, été immergé dans cette eau glacée, ce qui déjà est très dangereux, vous êtes tous sortis sains et saufs de ce sauvetage et donc vous avez tous les quatre été acheminés à l'hôpital de Belfort-Montbéliard pour des examens. Mais heureusement, les jours de personne étaient en danger. Comment s'est passée votre sortie d'hôpital alors que vous êtes deux collégiens et que vous étiez juste allés faire du sport ce jour-là dans le parc?
Notre sortie de l'hôpital était assez effrayant, surtout qu'en y allant, on s'est dit ça y est, on va sûrement avoir un truc en sortant.
C'est-à-dire, on va avoir un truc en sortant. T'avais peur d'être tombé malade?
Oui, même pire que ça, parce que sur le coup de froid, je me suis dit à tout moment, je peux prendre un coup de froid trop violent et en mourir.
D'accord. Et après?
Donc, je me suis dit, ça se passera peut-être pas tout de suite, ça se passera peut-être plus tard. J'ai eu peur de ça.
D'accord. Et comment les médecins ont-ils réagi?
En sortant de notre chambre d'hôpital, on a été applaudis plusieurs fois par certains médecins.
Ouais. Il paraît qu'ils ont fait une haie d'honneur pour votre sortie, c'est ça?
Oui.
Mais ça t'a fait quoi? Un dimanche matin, tu vas faire du sport avec un pote dans un parc et tu finis quelques heures plus tard à sortir de l'hôpital avec une haie d'honneur de médecin. Qu'est-ce que tu as ressenti?
J'ai ressenti beaucoup de stress.
Ouais, c'est dingue. Est-ce que tu as été fier?
Bien sûr. Comment ne pas être fier d'une telle chose?
Ouais, c'est ça. Et tes parents alors, comment est-ce qu'ils ont réagi?
Ma mère, quand elle a appris que j'étais à l'hôpital, elle a déjà eu très très peur.
Ouais.
Et pour la suite, elle avait les larmes aux yeux et je sais pas, elle était fière de moi, quoi.
Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Mathéo? Parce que quand je parle avec toi, j'ai pas le sentiment que tu réalises vraiment. T'as reçu la médaille du département quand même et de la ville.
Oui, j'ai reçu deux médailles et un diplôme. Et aussi un dessin d'un dessinateur.
D'accord, donc t'es fière?
Oui.
Moi, je trouve qu'il y a de quoi être fier. On va demander à Frédéric Vincent, qui est psychanalyste et président de l'Association des psychanalystes européens, de nous dire ce qu'il en pense. Frédéric Vincent, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. On parle donc de notre courage jusqu'à 15h30 sur RTL. Quand on écoute les propos d'un jeune homme comme ça, de 13 ans, qui s'appelle Mathéo et qui, un 10 janvier, va faire du sport avec son pote dans un parc et qui sauve la vie de deux personnes et qui nous en parle avec autant de, je sais pas, de modestie. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Je suis ému tout d'un coup et c'est vrai que je trouve, en l'écoutant, que ça correspond tout à fait aux représentations qu'on a du héros depuis la Grèce antique, car le héros, souvent, on le considère comme justement un jeune. Hein.
Mmh.
Et souvent, dans l'ensemble des cultures, le héros a entre 13 et 18 ans.
Mmh.
Hein, donc, c'est vrai que ça correspond tout à fait aux côtés de ce qu'on imagine déjà chez les héros grecs, hein, le
la
côté
jeunesse
impulsif.
Héroïque, voilà, c'est
je pense notamment à Oedipe, hein, qui est, bon, étant psychanalyste, Freud a largement écrit sur Oedipe, ce héros grec, et effectivement, je retrouve un peu ces caractéristiques, cette personnalité, cette insouciance, cette spontanéité, et c'est en même temps très émouvant, je trouve.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est l'impulsivité, ça veut dire qu'effectivement, peut-être que lorsque l'on est jeune comme ça, et que l'on est mu par une sorte de, d'impulsion, on ne se pose pas la question, c'est-à-dire que est-ce que l'acte héroïque est dénué finalement de toute réflexion ?
Alors, il y a une réflexion, mais elle est certainement moins poussée justement à cet âge-là, que quand on a 40, 50 ans, où là, effectivement, on cogite beaucoup plus, et donc on fait vraiment attention à son environnement. Là, effectivement, ça va très vite. Ça ne veut pas dire que le cerveau n'anticipe pas, parce qu'il analyse quand même la faisabilité du geste. Hein, je pense que dans d'autres circonstances, ça aurait été certainement différent, hein, notamment par rapport au danger qu'il peut y avoir. On n'agit pas de la même manière face à l'eau ou par exemple face à du feu.
Oui, exactement.
On n'a pas du tout les mêmes réflexes. Donc le cerveau anticipe assez rapidement. Hein. Donc c'est pas dénué de réflexion, c'est juste que c'est beaucoup plus rapide chez un jeune individu que par rapport à une personne âgée.
D'accord, hein. Et qui elle mesure beaucoup plus les risques qu'un jeune individu qui va se lancer comme ça. Alors ce qui est dingue, et on va se retrouver dans un instant pour en parler, moi je l'ai noté et ça m'a évidemment choqué, Frédéric Vincent, c'est que Mathéo nous dit, nous pendant qu'on était en train de marcher sur la glace, en fait il y avait plein de gens qui filmaient quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que le courage n'est pas partagé par tous dans ce genre de situation, et on peut se dire qu'à plusieurs, on pourrait avoir plus de courage et peut-être être plus efficace, mais non. Ce sont deux jeunes hommes, pour ne pas dire, pardon Mathéo, deux gamins de 13 ans, qui ce jour-là ont sauvé un papa et son petit garçon. On va se retrouver dans un instant sur RTL. Merci beaucoup Mathéo d'avoir témoigné sur cette antenne. Bravo à toi. Et puis tu salueras ton pote Kélian qui ne pouvait pas être avec nous cet après-midi en raison de l'école. Eh ouais, il y en a des collégiens quand même. Allez, merci, salut Mathéo. À bientôt sur RTL.
À bientôt et de rien.
Ciao.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
11h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
On parle du courage aujourd'hui. Avons-nous plus de courage qu'on ne l'imagine ? Karine nous écrit sur Facebook. Chez moi, c'est plus une réaction instinctive. Car quand je réfléchis après, je me dis que j'aurais pu tomber sur quelqu'un de dangereux. C'est vrai que parfois, on fait montre de courage sans pour autant, et on vient de le dire il y a un instant, Frédéric Vincent, sans pour autant appréhender finalement les dangers. C'est-à-dire que lorsque l'on est mu par une impulsion, là on l'a entendu à travers Mathéo qui a sauvé deux personnes, on ne réfléchit pas de la même façon aux dangers que l'on peut rencontrer, on réfléchit autrement. Voilà. Il se passe quelque chose aussi dans notre corps et dans notre cerveau. Qu'est-ce qui fait que certains se bougent et d'autres filment une scène?
Alors ça demande de revenir un petit peu aux origines, c'est-à-dire à quel moment cette pulsion elle apparaît.
Oui.
Et on sait que dans de nombreux travaux, on montre que finalement cette pulsion elle apparaît à la naissance. La naissance est un acte théorique.
Oui. C'est vrai, vous avez raison. Oui.
C'est pour les deux côtés, c'est-à-dire autant pour l'enfant que pour la maman.
Tout à fait.
C'est traumatisant, hein, une naissance, parce qu'en psychanalyse, on estime qu'on passe d'un monde idéal, le monde de la vie intra-utérine, hein, où l'enfant est protégé, il est à l'abri du danger, c'est un monde parfait, et puis il bascule sur cette vie terrestre où tous les dangers apparaissent.
C'est vrai.
Et en même temps, il rencontre sa mère et il est séparé de sa mère.
C'est vrai.
Et donc là aussi, il y a un élément qui apparaît et qui va déterminer aussi la vie psychique de l'individu, c'est l'apparition de l'angoisse. Et c'est cette angoisse qui va venir étouffer cette pulsion héroïque qu'on a tous dès le départ.
D'accord.
On est tous des héros dès l'instant où on met les pieds sur terre.
C'est vrai.
C'est déjà relaté dans les mythes grecs. Hein. On est tous héroïques dans le sens où on est sur terre.
C'est vrai.
Donc le tout, c'est de savoir comment finalement l'angoisse va venir étouffer cette pulsion et tout l'objet de l'éducation, de la culture, puis de la psychanalyse, c'est de voir comment on arrive à gérer cette angoisse. Parce que c'est l'angoisse qui nous empêche d'agir.
Donc on n'est pas tous égaux face aux angoisses. On a bien compris qu'on n'est pas tous égaux face aux angoisses aussi en fonction de notre âge. Et il en est dont on pense qu'ils vont manquer de courage dans certaines situations et d'autres qui vont tout de suite être héroïques. Mais ça, c'est parfois aussi l'image qu'on renvoie aux autres. Moi, j'ai vu des grands costauds être les plus lâches devant, devant un danger ou devant un acte qui aurait pu être héroïque. héroïque. Et j'ai vu des petits gringalets tout à coup se comporter comme des Superman, quoi. Donc il y a aussi le cliché, vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi ce qu'on attend des autres.
Tout à fait, hein, il y a ce qu'on attend des autres. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas des autres, c'est-à-dire les forces inconscientes, des forces insoupçonnées,
ouais.
hein, que nous-mêmes, on ne voit pas chez nous.
Ouais.
Et puis bah, du coup, ces situations qui sont quand même exceptionnelles,
ouais.
hein, il y a des facteurs qui font qu'il va y avoir ce que j'appelle un déclic.
Ouais.
Il y a la pulsion qui se déclenche. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir observer ces situations où je ne suis plus la même personne.
Alors, justement, on fait montre de courage dans des situations différentes. On peut faire montre de courage dans des situations d'affrontement, de confrontation, de sauvetage. On peut faire preuve de courage face à des défis aussi personnels. Le défi de la maladie, on n'appelle pas le même courage dans ces cas-là.
C'est toujours la même pulsion héroïque. Hein,
oui.
Puisqu'il s'agit de pouvoir, encore une fois, faire face à ses peurs, de pouvoir dépasser ses blocages, ses résistances. Et Dieu seul sait combien on en a chacun. Mais ces résistances sont toutes différentes selon notre parcours personnel. Hein.
Alors justement.
Donc on va tous réagir différemment par rapport à la maladie.
Mmh.
Hein, quand je discutais avec certains cancérologues, on m'expliquait justement que on a une majorité de personnes qui vont baisser les bras, qui vont pas vouloir lutter contre la maladie.
Mmh.
Hein, et les médecins peuvent pas non plus, on peut pas l'expliquer. Il y a pas de médicaments magiques qui vont permettre à un patient de dire j'ai envie de me battre, j'ai envie de prendre mes médicaments. Parce qu'il faut voir aussi le nombre de patients qui refusent de prendre leur traitement.
Bien sûr.
Qui préfèrent justement être motivés par une pulsion de mort et se laisser mourir. Hein.
Oui, oui. Alors, mais justement, il y en a certains qui vont être héroïques pour sauver la peau de quelqu'un, mais pas pour sauver la leur.
Tout à fait.
Donc ça, c'est oui, c'est le paradoxe, et ça vient d'où ça alors ?
C'est pareil, c'est toujours le même processus de base,
hein,
c'est-à-dire une angoisse qui va venir s'amplifier par rapport à sa vie familiale,
ouais.
hein, quand on a un environnement qui n'est pas sécurisant avec les parents,
c'est vrai.
Hein, quand on a un père ou une mère violente, parce que chez les enfants aussi, les enfants parfois doivent faire preuve de courage
face
à la violence parentale, face à la maltraitance, d'où c'est ce que aussi je milite, justement pour l'intérêt des héros de contes de fées, de mangas, de BD, de jeux vidéo, parce que c'est un rôle thérapeutique pour beaucoup d'enfants, qui sont dans des situations impossibles, parce qu'un enfant n'a pas le droit à la parole, n'a pas le droit de revendiquer de sa souffrance. Donc là, le héros, et il y a aussi cette image du héros qui, pour moi, est essentielle. Et c'est cette image du héros qui va venir réveiller ma pulsion héroïque.
Mmh.
Parce que j'ai aussi reçu beaucoup d'enfants qui me racontaient que en lisant les aventures de Spider-Man, Superman,
mais c'est vrai.
Eh bien, ça leur donnait du courage en disant, mais eux, le personnage héroïque,
il
Harry Potter,
bien,
et moi aussi je peux le faire. Harry Potter est un orphelin, il n'a pas de famille, il a des parents adoptifs qui sont cruels. Et donc l'enfant s'identifie et vient nourrir sa pulsion héroïque en disant moi aussi je peux le faire. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se préparer justement à cultiver la pulsion héroïque. Ça se cultive.
Alors, la pulsion héroïque se cultive auprès des jeunes. La pulsion héroïque, c'est aussi avoir le sens de l'autre, non ? Quand il s'agit de procéder à un sauvetage ou de porter secours à quelqu'un, il en est qui vont le filmer et le balancer sur les réseaux sociaux. Et puis, il y en a d'autres qui vont vraiment se lancer et qui ne se poseront même pas la question. C'est le sens de l'altérité, ça.
Complètement. Et là, encore une fois, le sens de l'altérité, ça va aussi dépendre de nos valeurs, de notre culture, de comment je vois l'autre,
hein,
par rapport soit à des valeurs individualistes, soit à des valeurs tribales. J'ai beaucoup écrit sur le tribalisme postmoderne, l'idée que tout ce mode de fonctionnement archaïque qu'on a cru dépasser dans notre histoire, eh bien, ça revient en force. Hein. Il y a des jeunes qui, justement, recréent des formes de tribus à travers la musique, à travers les jeux vidéo. Et le fait de reconstituer une communauté et de comprendre que j'existe aussi à travers l'autre.
Mmh.
Et que l'autre, finalement, est un même partenaire du monde. Donc, c'est moi. Hein. C'est un miroir de moi-même. Donc, si l'autre meurt, je meurs.
Mmh.
Donc, il y a une sorte de réciprocité, ce qui fait que je suis responsable de l'autre. Parce que c'est aussi ma vie qui est en jeu.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va faire un tour par l'information. Et ensuite, c'est Jean-Luc Caliel, qui est ancien chef de groupe au GIGN et qui est désormais conférencier, qui va justement nous parler du courage. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Aujourd'hui sur RTL, tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne repartent avec 4 places pour le film Villa Caprice, un thriller judiciaire haletant avec Nils Harestrup et Patrick Bruel, qui sort aujourd'hui au cinéma en partenariat avec RTL.
RTL.
Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Allez, on poursuit aujourd'hui notre réflexion autour du courage. Arnaud nous écrit, il est essentiel d'avoir du courage pour être soi-même. Personnellement, je fais preuve de courage chaque jour en sortant de ma zone de confort pour mieux évoluer et être la personne que je veux être sans me préoccuper du regard des autres. Nos invités aujourd'hui sur l'antenne d'RTL sont donc Frédéric Vincent qui est psychanalyste et président de l'APE et Monique de Kermadec qui nous rejoint. Monique, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes psychologue et psychanalyste. Ça repose sur quoi le courage, Monique de Kermadec? On en parlait avec Frédéric Vincent il y a un instant. Ça repose parfois aussi sur l'exemplarité, alors l'importance des super-héros pour les enfants qui se disent bah tiens, si Spider-Man le fait, bah peut-être que je peux le faire aussi. Bon, je ne parle pas de grimper évidemment aux immeubles, hein, mais je parle de choses qui font appel effectivement à notre courage. Et puis parfois aussi sauver quelqu'un, comme on l'a entendu à travers le témoignage de Mathéo, ça implique le sens de l'autre, la préoccupation de l'autre.
Tout à fait, mais nous ne savons pas toujours jusqu'à quel point nous sommes capables d'être courageux.
Mais
les circonstances
ça. Ouais.
Jouent un rôle important et bien évidemment notre personnalité va nous permettre de réagir. Mais on est parfois très surpris par notre capacité à agir d'une certaine manière dans certaines circonstances.
Mais alors ça, vous avez raison, qu'on ne soupçonne pas toujours nos forces, en fait. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas conscience de nos ressources insoupçonnées?
Alors, nous avons peur, nous avons des peurs, et c'est normal, c'est humain. Par contre, nous sommes capables de dépasser ces peurs lorsque la situation nous semble devoir... dépasser ses peurs. Nous n'y pensons plus, nous allons agir parce que nous sommes obligés d'agir dans de telles circonstances.
Et pourquoi certains le font et d'autres pas? Mathéo nous disait que lui, il avait sauté donc sur ce lac gelé pour pouvoir porter secours à un petit garçon de 3 ans, mais qu'en même temps, il y avait des adultes. Mathéo, il a 13 ans. Il y avait des adultes qui filmaient. Pardon, je reviens toujours là-dessus, mais ça me choque.
C'est affreux.
Mais oui, c'est affreux. Qu'est-ce qui fait que certains vont filmer et d'autres vont être dans l'action, quoi?
Ouais, je crains qu'aujourd'hui, il y ait effectivement un grand nombre de personnes qui prennent des photos et qui filment plutôt que de se sentir impliqué dans la situation. Alors, nous avons une capacité à nous projeter dans une situation, une capacité d'identification qui fera que nous irons sauver quelqu'un, tout comme nous pourrions nous-mêmes souhaiter être sauvés.
C'est vrai, vous avez raison. Il y a Vincent qui nous écrit sur Facebook « Je pense que tout dépend du type de personne que l'on est fondamentalement et de la confiance que l'on s'accorde. Une personne simple peut faire preuve d'extrêmement de courage, comme quelqu'un se montrant aguerri peut se révéler être un pleutre. » Mais c'est tellement vrai, c'est ce que je vous expliquais il y a un instant. Il y a des mouses costauds qui sont des vraies poules mouillées et d'autres qui n'auraient pas l'air et qui en même temps démontrent un courage qui force l'admiration. « Ce ne sera que face à l'adversité que se révélera le courage d'une personne. Je pense également que le courage a de multiples facettes, nous écrit Vincent. Courage face au danger physique, danger moral, courage d'assumer ses actes ou ses opinions. Voilà une autre forme de courage. Courage d'une mère ou d'un père pour élever un enfant. » Le courage, en fait, on nous le réclame en permanence dans la vie, Monique de Kermadec.
Tout à fait. Mais nous ne savons pas quand nous aurons à exercer ce courage. Nous sommes conscients de nos peurs et nous ne savons pas quand nous serons capables de les dépasser. Mais c'est un objectif qui me semble important parce qu'on ne peut pas laisser la peur contrôler nos vies.
Est-ce que le courage entretient le courage, Frédéric Vincent? Est-ce qu'à partir du moment où on en a fait montre, on sait qu'on l'a, donc on peut le déployer?
Tout à fait. Alors, c'est aussi une question pour moi d'éducation. On peut être éduqué finalement dans la peur, mais aussi on peut être éduqué dans l'épreuve.
C'est-à-dire,
il y a certaines cultures, je pense aux Spartiates, où effectivement on élève les enfants, je pense aussi aux samouraïs. Forcément, on leur donne une éducation initiatique.
On n'est pas vraiment samouraïs.
Pas trop, mais dans certaines cultures, c'est très fort. Nous, c'est plutôt le contraire. Je dirais, parfois, on est plutôt dans une éducation où finalement, on transmet les peurs. Surtout, là, depuis une année, effectivement, dans les médias, etc., il y a une ambiance très anxiogène à l'école. Les enfants l'intègrent. Du coup, effectivement, ça ne permet pas de développer cette pulsion héroïque. Bien au contraire, il existe ensuite des écoles, le GIGN par exemple, où finalement on appelle à développer cette pulsion héroïque, à l'entretenir, et plus on est confronté au danger, plus on se familiarise.
Eh bien, on va demander justement à Jean-Luc Caliel, dans un instant, qui est ancien chef de groupe au GIGN, de nous donner son point de vue sur la question. A tout de suite sur RTL.
RTL.
Flavie Flamand. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Oh oui, on a tous en nous une source de courage à laquelle on ne pense pas jusqu'au jour où l'on a épuisé notre réserve et que soudain on la découvre, nous écrit Popo sur Facebook. Bonjour Jean-Luc Alliel.
Bonjour Flavie.
Alors vous êtes ancien chef de groupe au GIGN, vous êtes auteur et conférencier. Votre dernier ouvrage, c'est l'affaire 1241, un roman policier publié chez A&H. Et puis il y a une BD, mais j'en parlerai tout à l'heure. Dites-moi Jean-Luc Alliel, est-ce qu'il faut faire montre de courage pour intégrer le GIGN?
Alors, pour intégrer le GIGN, il faut faire preuve de motivation.
Ah ouais, c'est ça.
La motivation, c'est déjà une première chose. Le courage, j'allais dire, vient avec l'entraînement.
Ouais.
Mais j'ai envie de dire aussi qu'en chacun de nous, on a la petite graine de courage. Mmh. Et cette petite graine de courage, à un moment donné, eh bien, elle va pousser l'individu à faire quelque chose qui va dépasser ce qu'il aurait pu imaginer, comme on a vu dernièrement. Ce jeune homme gravir les balcons pour sauver un petit garçon suspendu à une rambarde. Il n'a écouté que son courage et il a laissé de côté sa peur. Eh bien, au groupe, au GIGN, on a tous peur en intervention, mais l'avantage, c'est que l'entraînement quotidien, l'entraînement récurrent, nous enlève des doutes. Des doutes sur notre efficacité, nous enlève des doutes sur nos possibilités et ça favorise le courage. Au-delà de ça, le courage qui anime les gens du groupe, si tant est que ça soit un courage, parce que des policiers, des gendarmes classiques, des pompiers et bien d'autres professions aussi font preuve de courage, c'est quand il y a la valeur de la vie. Au groupe, c'est une valeur extrêmement importante et qu'au nom de la vie, quelle que soit la vie, que ce soit celle d'un otage ou d'un preneur d'otage, c'est avant tout une vie. Mmh. Et c'est notre moteur en fait. Le moteur du groupe, quand on nous envoie sur une mission, une situation de crise, on y va avec la peur, mais on n'a aucun doute sur nos capacités. On n'a aucun doute sur le dénouement de la situation. Et on a en ligne de mire uniquement la préservation de la vie. Et on oublie tout le reste.
Oui, c'est ça. Pardonnez-moi, mais c'est ça que vous appelez la motivation aussi.
C'est aussi une forme de motivation. Le courage est là quand il faut tenter des prises de risques énormes pour aller chercher un individu. Notamment, je prends l'exemple du détournement d'avion en 94 sur l'aéroport de Marignane. Ouais. Il faut aller chercher 172 passagers, et si possible, sains et saufs. Eh bien, la motivation, bien sûr qu'elle y est, mais il y a aussi une grande forme de courage, même courage collectif. Parce que le courage est démultiplié à partir du moment où il est partagé avec ses collègues. Mmh. Et il y a cette confiance qui s'installe aussi, qui favorise aussi la prise de risque et le courage. Il y a cette prise de risque et cette collectivité qui font qu'à un moment donné, on va tenter l'impossible. Tant pis, on prend le risque.
Alors, il y a quelque chose là que vous venez de dire qui m'a vraiment interpellée. Je vais demander aussi à Frédéric Vincent et Monique de Kermadec ce qu'ils en pensent. C'est qu'en fait, ce que vous nous avez expliqué, Jean-Luc Alliel, c'est que le courage s'entretient. On s'entraîne quelque part au courage.
Oui.
Est-ce à dire aussi, dans ce cas-là, Frédéric Vincent, que les épreuves de la vie que l'on dépasse vont nous rendre de plus en plus courageux?
C'est fondamental.
Indéniablement.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, y a l'éducation et il y a son histoire personnelle. Hein. Mmh. Y a des enfants qui, très jeunes, doivent faire face aux épreuves. On parlait tout à l'heure de la maladie, de la maltraitance dans les familles. Et du coup, ça pousse à développer cette pulsion héroïque et très jeune, justement, à développer ces qualités-là.
Ouais.
D'ailleurs, on les voit, je pense, que au niveau des recrutements du GIGN ou du RAID, souvent, ceux qui se présentent, ils ont déjà des histoires de vie qui sortent du lot, en général. Hein.
Jean-Luc Alliel, est-ce que vous souscrivez, justement, à ce que vient de dire Frédéric Vincent?
Alors oui, le parcours à prendre en compte, si je prends le profil général des gens du GIGN, c'est des profils extrêmement sportifs, des compétiteurs, le goût du challenge, du défi. On a des gens qui ont horreur de l'échec. Mmh. Et nous sommes nourris au quotidien par des entraînements qui nous mettent à l'épreuve.
Oui, je comprends.
Au sein de ces entraînements, on tente l'impossible. Parfois même, l'entraînement est plus difficile que la réalité. Ça permet de s'enlever ce fameux doute. Quand on est sur le terrain, on se dit ça, je l'ai déjà fait 1000 fois à l'entraînement, ça doit passer ici.
Ouais, je comprends. Restez avec nous, hein, Jean-Luc Alliel. Monique de Kermadec, rapidement, la résilience, justement, les épreuves, ça c'est quelque chose qui nous rend plus courageux parce qu'on sait qu'on l'a déjà fait, quoi.
Oui, je pense que ce qui est important, c'est de croire qu'on a le pouvoir de faire changer la situation.
Oui, c'est ça.
Et que l'on soit avec le soutien du groupe ou tout seul, cet élan qui nous pousse à agir subitement est vraiment intimement lié à cela.
On va se retrouver tous les trois et avec nos auditeurs évidemment dans un instant. Je voudrais qu'on parle de la récompense du courage parce qu'on n'y pense pas, mais quand tout à coup on se dit qu'on a sauvé quelqu'un. Jean-Luc Caliel, vous allez nous raconter aussi certaines choses que vous avez vécues au GIGN. Ça, à un moment donné aussi, c'est peut-être tout aussi fort que le courage dont on a fait preuve. À tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. À 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Jean-Luc Caliel, vous êtes ancien chef de groupe au GIGN avec vous et avec évidemment Frédéric Vincent et Monique de Kermadec. Nous parlons donc du courage. Je tiens à préciser qu'on retrouve toutes les dernières missions du GIGN dans une BD Nouvelle Ère chez A&H. Jean-Luc Caliel, la gratitude de quelqu'un que l'on a sauvé, vous l'avez forcément vécu. Quand on a fait montre de courage, on est parfois récompensé aussi, magnifiquement.
Oui, on est récompensé par les otages eux-mêmes. C'est la plus belle récompense d'ailleurs, et on est tout le temps extrêmement gêné parce que pour nous, on ne fait que notre travail et on a du mal à recevoir les remerciements. Mais il faut les accepter quand on les reçoit. Et j'ai quelques exemples en mémoire, notamment deux. Un exemple sur un huissier de justice qui a été pris en otage chez un particulier, qui lui-même, tout petit, avait vécu une saisie chez ses parents des meubles et de la maison, et devenant adulte, il ne supportait pas que lui saisisse à son tour ses biens. Et cet huissier de justice qui allait être papa s'est retrouvé pris en otage. Et nous sommes intervenus, et un des collègues qui intervenait avec moi, donc le groupe, au moment de l'assaut, parce que la négociation n'aboutissait pas, le collègue qui est devant moi s'est interposé entre le coup de fusil du preneur d'otage et l'otage. Donc le collègue a pris l'impact en plein casque, mais l'huissier s'en est sorti sain et sauf. Et la récompense que nous avons eue, c'est que quand cet huissier de justice est devenu papa, a donné le prénom du copain qui avait pris le projectile à sa place.
Ouais, c'est beau.
C'était vraiment le plus beau cadeau, c'est plus beau qu'une médaille, en tout cas.
Mais oui.
Et dans l'avion, quand on a fini la prise d'otage dans l'avion et que nous sommes remontés avec tous les otages dans un avion Air France avec le ministre, le plus beau cadeau, c'est quand vous êtes pris dans les bras de ces otages, tous algériens ou de la petite Kabylie, qui parlaient à peine le français. J'ai un souvenir extrêmement poignant d'un monsieur qui devait avoir 70 ans, les yeux d'un bleu délavé, qui regardait en larmes et qui ne savait pas trop parler français. Mais la seule chose qu'il m'a dit, comme serrant dans les bras, c'est merci. Et ça, excusez-moi, je suis encore ému, vous voyez.
Bah oui, je l'entends.
Ça m'a profondément touché.
Mais je l'entends et je vous remercie de partager avec nous ces souvenirs qui sont si forts. Monique de Kermadec, on l'entend, hein, la gratitude, ça c'est quelque chose d'extraordinaire de la part des personnes que l'on peut aider dans des actes héroïques, mais même la gratitude que l'on se doit à soi-même, je dirais. Quand on dépasse une épreuve personnelle comme celle de la maladie, à un moment donné, est-ce que ça ne nous apprend pas à nous aimer davantage ?
Bien sûr, mais en parlant de gratitude, Flavie, j'avais envie de souligner cette nécessité qu'il y ait aussi une reconnaissance de la société, du groupe autour.
C'est vrai.
Parce que nous devrions parler beaucoup plus souvent de nos héros du quotidien.
D'ailleurs, on terminera avec ça, Frédéric Vincent. Je pense, moi, au personnel soignant qu'on a applaudi pendant le premier confinement et qu'on a abandonné quelque part, d'une façon ou d'une autre, à son triste sort sur le front du Covid.
En tout cas, ils sont toujours là et n'arrêtent pas les pourtant, remercier. Tous ces héros du quotidien, ils sont un petit peu le ciment social de la vie quotidienne. Sans eux, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a rien. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et juste pour conclure, je pense que vraiment l'ultime récompense qu'on peut obtenir en agissant héroïquement, eh bien, c'est la découverte de ce trésor incroyable qui est justement la pulsion héroïque qui fait que je peux m'en saisir et agir sur mon destin. Et je pense à de nombreux témoignages aussi que j'ai pu recevoir dans mon cabinet de personnes ayant vraiment frôlé la mort dans la maladie et ayant vraiment survécu ces miracles-là, même la médecine n'arrive pas à l'expliquer. Et on voit le changement, la transformation de la personnalité. Et ça crée justement des belles personnes, des personnes qui deviennent plus belles, qui arrivent à témoigner, parler, s'exprimer. Et ça, c'est magnifique.
C'est donc vertueux tout ça. Voilà, interrogeons notre propre courage puisqu'on a bien compris qu'on l'a tous quelque part caché au fond de nous et qui ne demande dans certaines situations qu'à se réveiller, à nous aider. Merci beaucoup Jean-Luc Caliel d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir livré ces souvenirs émouvants. Merci à vous.
Merci.
À très bientôt sur RTL.
Merci.
Au revoir Jean-Luc. Merci revoir. Beaucoup Monique de Kermadec. Bah tiens, je vais citer merci votre ouvrage, Un sentiment de solitude que l'on retrouve chez Albin Michel. Merci à vous d'avoir passé ce moment, Monique de Kermadec.
Merci.
À bientôt. Frédéric Vincent, merci beaucoup. Votre livre, c'est Geek Théorie aux éditions Champs-Élysées-Deauville. Merci beaucoup. Il y a Paris-Brest et il y a Champs-Élysées-Deauville. Voilà. Merci à tous. On parlera de la chance demain dès 14h30. Dans cette attente, n'oubliez pas de prendre grand soin de vous. Je vous embrasse, à demain.
RTL.
On est fait pour s'entendre.